l'univers, un océan d'amour qui envahit la terre. J'ai interrogé les sages et les poètes du monde, aucun n'a jamais su me dire où je trouverai la paix. Un océan d'amour qui envahit la terre. J'ai entrepris des voyages, j'étais sous d'autres yeux. J'ai fini par perdre courage devant tant de malheureux. Un océan d'amour qui envahit la terre. Une voix s'est fait entendre, c'était la voix de Jésus. Je suis venu non pour les sages, mais pour sauver les perdus. Cet océan d'amour qui envahit mon être.
Bonjour à tous, vous allez bien? Gloire à Dieu.
Moi aussi, j'ai des petits coups thermiques encore. De temps en temps, j'ai chaud, de temps en temps, j'ai froid. Et puis voilà, mais c'est assez normal, hein, le corps. Là-bas, il faisait tellement chaud, et humide en plus au Togo, c'était terrible. Mais bon, voilà, et il faut traiter durement notre corps, la Bible dit. Alors bon, ben voilà. Vendredi passé, je vous ai parlé de trois évangiles, celui de la grâce, celui du royaume et l'évangile éternel. Vous vous souvenez d'Apocalypse 14. Maintenant, je voudrais qu'on lise Apocalypse 8, verset 3. Un autre ange vint, se plaça vers l'autel, tenant un encensoir. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Non, excusez-moi, je me disais aussi, c'est bizarre. C'est pas ça. C'est 8-13, excusez-moi, je suis désolé. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait très haut, voilà, c'est ça. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des sonneries de trompettes, celles que les trois anges vont encore faire retentir. » Voilà, c'était ça le verset, excusez-moi. Les notes que j'ai prises ne sont pas parfaites. Voilà mes frères et sœurs, pourquoi je vous enseigne ces choses sur l'Apocalypse ? En ce moment, parce que nous vivons des événements très forts. Vous avez vu tout ce qui se passe dans les pays arabes. Il ne faut pas penser que c'est par hasard. Hein. C'est pas par hasard. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Ça arrive et puis ça ne va pas aller mieux. Ça ne va pas aller mieux. On le sait. Ça fait longtemps qu'on le dit. Et puis voilà, on voit, ça bouge, ça bouge. Mais voilà, les chrétiens n'ont pas l'air de bien comprendre ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi je pense que c'est nécessaire qu'on enseigne encore ces choses-là et que ça rentre dans le cœur, dans la tête des gens pour qu'ils se réveillent, qu'ils réalisent. Hier, avec Michou, nous étions aux hommes d'affaires chrétiens à Rouen. Et là encore, on a pu témoigner, Michou a témoigné. Moi aussi, j'ai parlé à peu près pendant une heure, hein, chérie, c'est ça. Et ensuite, j'ai prié pour les malades avec Michou, il y a eu des guérisons. Et c'était vraiment puissant, c'était bien. Tout le monde était content, ils étaient ravis. Et voilà, si ça peut commencer à bouger un petit peu en France, ça serait super. Et qu'on puisse être invité pour apporter ce que nous avons reçu de Dieu. Parce que c'est bien que je l'apporte en Afrique, mais il y a tellement, comme tu dis Alain, tellement de gens qui souffrent ici en France. Mais bon, nul n'est prophète en son pays. Il faut croire que je suis dans mon pays maintenant, il faut croire. Hein. bien que je ne sois pas français, je suis suisse, mais depuis le temps que je vis ici en France, ben voilà, c'est devenu mon pays un peu. Donc là, nous voyons un aigle qui vole au milieu du ciel et qui annonce la venue de trois anges, trois envoyés de Dieu. Et il dit que ces anges vont proclamer trois malheurs. C'est-à-dire, il le dit quand on comprend ce qui est écrit là. La Bible nous dit que quand il est question de trompette, d'après la symbolique apocalyptique, il s'agit de proclamation. Hein. Quand l'ange sonne de sa trompette, c'est une proclamation. Il n'y a pas un ange qui apparaît comme Zaz, hein. Non. C'est des proclamations. Et là, l'aigle dit que les trois anges d'Apocalypse 14 proclament trois malheurs. Quel malheur ! Quel malheur ! Quel malheur pour les habitants de la terre ! Trois. Au chapitre 14, eh bien, le premier ange annonce un évangile éternel. Un évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ce n'est pas un malheur, oui, mais ce n'est pas un bonheur pour tout le monde. Ce n'est pas un bonheur pour tout le monde. Ça ne concerne pas tous les habitants de la terre, la bonne nouvelle que cet ange annonce. L'évangile que cet ange annonce. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui vont obéir à l'ordre de l'ange. Maintenant, je vous rappelle, là, ce qui est écrit là, c'est ce qui se passe pendant la grande tribulation. Vous allez nous dire, mais en quoi cela nous intéresse-t-il puisque nous serons partis? L'Église va partir à la rencontre du Seigneur. Partout où je vais, je rencontre des chrétiens qui sont certains qu'ils vont partir dans l'enlèvement. Et c'est terrible parce que moi, je suis sûr que non. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas veillants et priants. Ils se comportent d'une façon qui n'est pas scripturaire. Ils ont des tas de choses qui ne sont pas correctes selon la parole de Dieu. Et il faut leur dire, si on ne leur dit pas, si on les laisse dans cette illusion, mais c'est grave, j'aurai des comptes à rendre devant Dieu, étant donné que c'est moi qui les rencontre. Des milliers je rencontre. Ils sont tous là, Amen, Alléluia. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Si les habitants de la terre ne se repentent pas, ne craignent pas Dieu, ne se prosternent pas devant lui, le jugement va leur tomber dessus. Et là, c'est pendant la grande tribulation, c'est-à-dire l'épouse de Christ, c'est-à-dire les vainqueurs des sept âges de l'Église. Vous savez qu'il y a sept âges dans l'Église. Et ceux qui sont vainqueurs dans ces sept âges seront enlevés. C'est eux l'épouse. C'est les vainqueurs, ceux qui arrivent à vaincre dans leur temps. Mais maintenant, on ne voit pas de vainqueurs. Je suis désolé, pardon. Mais encore hier, on a vu des gens affligés, terrassés, n'en pouvant plus. Vraiment, dans une tristesse, dans une confusion, dans un désarroi. N'est-ce pas, Michou? C'était terrifiant de voir ça. En plus, ils nous ont dit, parce qu'il y avait très peu de monde, que, bon, ils nous ont dit, il y en a 14 qui ne sont pas là parce qu'ils sont partis dans un voyage organisé en Israël, normalement, on serait plus nombreux. Mais si les 14 avaient été là, on aurait été 30, quoi. Les hommes d'affaires chrétiens, moi j'ai connu ça. C'était l'hôtel Nico qui était plein, quoi, je veux dire. Et puis nous, on nous regardait de haut en disant, ouais, les petits jeunes là, qui dérangent. Et il m'a dit, mais c'est pas seulement ici, c'est général, en France, c'est général. Partout dans le monde, ça marche, mais en France, c'est général. C'est ça. Quel malheur. Et pendant la grande tribulation, il y a des gens, la grande majorité des chrétiens vont rester. Il est dit que ça sera comme du temps de Noé. Du temps de Noé, il n'y a que 8 qui sont partis, qui ont été enlevés au-dessus des eaux. Ça sera une minorité. Il ne faut pas croire que tous ces chrétiens qu'on voit dans les églises... Non, mes frères et sœurs, non. Et il faut leur dire, et je profite d'Internet pour vous dire, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, êtes-vous vraiment prêts ou est-ce que vous vous illusionnez? Est-ce que vous pensez, voilà, je suis prêt, parce que mes péchés sont pardonnés? Mais ce n'est pas suffisant. Les vierges folles... Elles sont vierges, c'est-à-dire c'est des gens qui ont, leurs péchés ont été pardonnés, puisqu'ils sont vierges, ce sont des gens qui sont purifiés pour Dieu, ils sont propres, nets, impeccables, mais ils sont fous. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Quant aux vierges sages, bon, elles sont vierges, c'est parfait, elles sont sages, c'est parfait, mais elles dorment. Et il faut que quelqu'un crie, ben moi je veux bien de celui qui crie il est mal vu. Et il réveille les gens, moi quand on me réveille, je n'aime pas, hein. Vous aimez-vous? Ah, mes frères et sœurs. Donc là, pendant la grande tribulation, il y aura des saints, des gens saints. Les vierges folles sont des gens saints, des gens sanctifiés, des gens qui sont nés de nouveau, qui ont été baptisés de la façon correcte, qui sont dans les églises, qui sont fidèles, qui marchent avec Dieu, mais qui sont fous. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, je ne peux pas dire le contraire. Vous savez pourquoi Dieu m'exauce? Parce que je crache la vérité. En Afrique, on m'appelle le prédicateur qui crache la vérité. Alors Dieu bénit sa parole derrière pour confirmer que ce que je dis est vrai. Et là, la Bible nous dit que pendant la grande tribulation, il y aura des saints qui seront là et que s'ils ne se repentent pas, ne craignent pas Dieu, ne se prosternent pas devant lui, c'est-à-dire s'ils prennent la marque de la bête, ils seront très religieux, qui fera des miracles aussi pour imiter Dieu. Eh bien, le jugement va leur tomber dessus. Pas le jugement dernier, non. Le jugement sur Babylone. Babylone, c'est-à-dire sur l'église prostituée, sur cette fausse église, sur cette église apostate qui s'est prostituée avec les démons. Au chapitre 17-18, on voit ce jugement qui s'abat sur l'église catholique. On peut l'identifier en lisant Apocalypse. Jean, quand il a vu la grande prostituée, il était étonné. Pourquoi il était étonné? Parce que quand il l'a vu, il a pensé que c'était l'église chrétienne telle qu'elle allait devenir. Et puis tout d'un coup, il voit que c'est une prostituée. Voilà pourquoi il était étonné quand il l'a vu. Parce qu'il a vu ce qu'elle est devenue. Et on voit ce jugement s'abattre donc sur cette église. Et il nous est dit que cette église, c'est la mère de toutes les prostituées. C'est-à-dire, elle a enfanté, il y a des choses qui sont sorties d'elle, toutes sortes de dénominations qui sont sorties d'elle. Ce sont toutes ces religions qui sont issues de cette église-là. La réforme, au début, c'était bien, mais ça a mal tourné. Etc., etc. Ensuite, il y a tous ces courants évangéliques qui sont sortis de là, mais qui ont mal tourné. Maintenant, c'est devenu la même chose. C'est plus le Saint-Esprit qui guide, c'est le programme, c'est le bureau central. C'est terrible, et les pasteurs souffrent de ça, et les églises souffrent de ça. Alors le jugement de Dieu sur Babylone est dû à la débauche spirituelle, morale, matérielle de cette église. Il faut savoir que l'église prostituée se liera au pouvoir politique, d'ailleurs c'est déjà fait, ils sont liés au pouvoir politique, ça fait déjà longtemps. Et on a belle de mettre en avant la laïcité dans notre beau pays de France, mais en réalité, dans l'ombre, elle influence toujours les politiques. Voilà pourquoi vous voyez tous les rois de la terre qui sont au Vatican et qui vont baiser l'anneau papal. C'est pas pour faire des photos, hein. C'est parce qu'ils vont là-bas en signe de soumission, tous. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est quand même étonnant. On voit ça, puis on dit, ah. Alors il nous faut comprendre que quand ce jugement va tomber sur Babylone, la condamnation va frapper deux pouvoirs, le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Et ça, c'est le deuxième malheur. Le premier, il est encore mêlé de bonnes nouvelles, ce que je vous disais vendredi. Le moment est venu, le moment, l'heure du jugement est là, c'est un malheur. Mais vous pouvez encore vous repentir. Mais pour le deuxième malheur, il n'est plus question de repentir, là, il n'y a plus de repentance possible. Ça tombe, on va le lire. Très peu, les chrétiens lisent très peu l'Apocalypse, ils disent « Oh, on ne comprend pas bien, on ne sait pas, alors on ne préfère pas, parce qu'il ne faut pas interpréter, il faut vraiment… » Oui. Alors lisons Apocalypse 18, 9, 24. Et on va voir ce qui va tomber là-dessus. Apocalypse 8, 9. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment et ils diront « Malheur, malheur !» La grande ville Babylone, la ville puissante, et en une seule heure ton jugement est venu. Ça va être rapide, hein, en une heure. Les marchands de la terre pleureront aussi. Ils pleurent, ils sont dans le deuil à cause d'elle parce que plus personne n'achète leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets d'ivoire, de bois précieux, de bronze, de fer, de marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de farine, de blé, d'œufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes humains. Vous voyez, ils vendent même les âmes, le corps et l'âme des gens. Les fruits que tu désirais profondément sont partis loin de toi, toutes tes richesses et toutes ces splendeurs sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces produits qui se sont enrichis en commerçant avec elle se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Tous les capitaines, tous ceux qui naviguent, les marins, tous ceux qui vivent de la mer, se tenaient à distance et ils criaient en voyant la fumée de l'incendie. Quelle ville pouvait se comparer à la grande ville? Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils criaient dans les pleurs et le deuil. Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent les bateaux sur la mer, en une seule heure, elle était dévastée. Par contre, ciel, réjouis-toi à cause d'elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, « C'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas et qu'on ne la trouvera plus. On n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un quelconque métier. On n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et on n'entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre. » Et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. Parce qu'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Et le troisième ange proclame le troisième malheur. Apocalypse 14, 9 à 13. Vous voulez qu'on le lise aussi? Apocalypse 14, 9 à 13. Troisième ange. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit la marque sur son front et sur la main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom, c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Voyez la bête. Ce n'est pas le faux prophète, la prostituée, ce n'est pas l'antichrist. Les gens disent le pape, c'est l'antichrist. Non, c'est le faux prophète. Il y a deux personnages. La prostituée, elle a été éliminée, la chute de Babylone, éliminée. Le faux prophète, éliminé, c'est-à-dire le chef de cette prostituée. Il faut bien comprendre, la prostituée, c'est le faux prophète d'Apocalypse 19, 20. Et toute son organisation religieuse. Mêlé à la finance. Et la bête, c'est un autre personnage, c'est l'antichrist, qui est le maître du monde, gouvernement mondial, maître des dirigeants du monde. Cette bête, c'est la bête d'Apocalypse 19. Il y a deux personnages. Il y a deux personnages, comme les deux pieds de la statue de Daniel. Et les deux seront pris et jetés dans les temps de feu. Apocalypse 19, 20, 21. Il y en a deux. Il n'y a pas un antichrist, il y a un antichrist, oui, et puis le faux prophète. Chapitre 14, verset 12, vous avez remarqué, il y a encore des saints, les enfants de Dieu, la persévérance des saints. Ils sont sur la terre à ce moment-là, ils vont voir la grande Babylone tomber. Tous les chrétiens qui ne vont pas partir dans l'enlèvement verront, je pense à mon avis, hein, je ne dis pas que ça sera ça, mais à mon avis, ça sera certainement un bombardement atomique, certainement. Je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a dit, hein, mais je pense que ça sera ça, sur Rome. Je prie que vous n'y soyez pas, mes frères et sœurs. Vous tous qui m'écoutez sur l'Internet, je prie pour que vous ne voyez pas ça. Parce que si vous voyez ça, c'est que vous êtes dans la grande tribulation, c'est que vous n'avez pas été enlevé, c'est que vous n'êtes pas au repas des noces. Les chrétiens authentiques qui seront sur la terre, en ce moment-là, ce seront ces vierges folles qui vivent aujourd'hui. Ils vivent aujourd'hui. C'est des gens qui vivent aujourd'hui, qui vivent là, et ils vivront pendant ces 7 ans. La grande tribulation, ils vivront. Il faut leur dire. Personne n'enseigne ces choses. Regardez, allez regarder. Personne n'enseigne ces choses. Ils sont vierges, c'est-à-dire purs, vraiment nés de nouveau, mais ils sont idiots spirituellement. Idiots. Ils se comportent comme ils veulent. Ils croient plaire à Dieu. Ils s'auto-suggestionnent. Ce n'est pas la parole de Dieu leur guide. Ce n'est pas le Saint-Esprit leur guide. Ils prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Ce n'est pas appuyé sur les Écritures. ils ne participeront pas, ils ne partiront pas dans l'enlèvement. L'épouse, c'est les vierges sages, celles qui ont l'huile. Alors tous, ils disent, oui, mais nous avons l'huile du Saint-Esprit, alléluia, puis ils parlent en langue. L'huile, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui alimente le feu, c'est certain. Le feu du Saint-Esprit, la Bible nous dit, il n'est pas dans le tremblement de terre, il n'est pas dans le vent puissant, il est... Non. Ce n'est pas dans le bruit et dans les cris. Le feu du Saint-Esprit brûle là où il y a l'obéissance. Brûle là où il y a l'obéissance à la parole. Une conformité de vie, de comportement à la parole. Les vrais chrétiens qui se seront comportés bêtement, follement, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, ne seront pas enlevés. Il y en aura. Je peux prêcher tout ce que je veux, il y en aura. Mais j'aimerais bien que ce ne soit pas vous. Ils resteront sur la terre pour vivre la grande tribulation. Ils seront sauvés si, au moment de la grande tribulation, ils se ressaisissent, se repentent, donnent gloire à Dieu, refusent de prendre la marque de la bête. Ils seront sauvés comme au travers du feu, nous dit la Bible. C'est-à-dire, ça va sentir de roussi sur eux. Mais croyez-vous qu'ils vont pouvoir accepter de ne pas prendre la marque de la bête, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas difficile de servir Dieu, ce n'est pas difficile de faire ce que la Bible nous dit de faire. On a le Saint-Esprit en nous pour nous aider, pour nous conduire, pour nous fortifier, pour nous bénir, pour nous édifier. On a les ministères qui sont là pour nous enseigner. Ce n'est pas difficile d'obéir à Jésus-Christ aujourd'hui, de veiller, ce n'est pas difficile, de prier, ce n'est pas difficile. Pensez-vous que, alors, quand il y aura l'Antichrist, que le Saint-Esprit sera plus sur la terre, ces gens-là qui aujourd'hui rechignent devant la parole de Dieu ne veulent pas obéir, disent, moi je pense que, est-ce que vous pensez qu'eux, ils pourront véritablement tenir le coup? Non. Très peu tiendront le coup. Très peu tiendront le coup. Ça va être terrible. Et ils seront là, ils devront souffrir. C'est au prix de leur sang qu'ils pourront être sauvés. Comme au travers du feu. Et puis avec eux, sur la terre, il y aura les adorateurs de la bête. Les partisans de la bête. Au verset 13, il est écrit, heureux dès à présent les morts, vous vous rendez compte, heureux les morts, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, c'est-à-dire tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Ma maman qui est partie, gloire à Dieu, elle est partie, elle est morte dans le Seigneur. C'est formidable, Michel Cotefire qui est mort dans le Seigneur. Bien sûr que c'est terrible de voir un bel homme jeune comme ça, rempli du Saint-Esprit, mourir si jeune, mais heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Vous voyez mes frères et sœurs? L'épouse et l'esprit dit, viens Seigneur Jésus-Christ, on a hâte, n'est-ce pas, qu'il vienne. À quelle époque se situe ce dès à présent? Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. On est déjà heureux maintenant si on meurt dans le Seigneur. Si nous mourons dans le Seigneur, nous sommes déjà heureux, déjà maintenant. Mais là, il s'agit des saints qui accepteront le martyr par fidélité à Jésus-Christ. Alors ceux-là, il ne pourra rien leur arriver de meilleur que de mourir. Ils seront véritablement heureux parce que la mort les soustraira à l'emprise de celui qui veut les marquer par sa marque. Vous savez qu'il y aura une marque. Les gens regardent Harry Potter et ils voient sur le bras de tous les méchants, les mauvais, hein, la marque de la bête. Vous avez vu ça dans le film Harry Potter? Et tout le monde s'habitue, voilà, il y a une marque, hein, la marque de la bête qui apparaît dans le ciel, l'alerte. Hein, c'est des films, ça c'est faux. Mais c'est basé sur quelque chose qui va arriver. Il va y avoir. Les chrétiens devront prendre une marque sur eux, et s'ils ne la prennent pas, ils seront mis à mort. Et la mort, heureux ceux qui mourront dans le Seigneur, parce qu'ils refuseront de prendre la marque de la bête. La mort, ça sera pour eux un triomphe qui les fera entrer, n'est-ce pas, dans le royaume éternel de Dieu. Ils soupireront après la mort, ils espéreront mourir sans être torturés. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils reposent leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Vous voyez, nous ne vivons pas ici-bas comme les gens du monde, parce que nous savons pourquoi, parce que nous lisons la Bible, parce que le Saint-Esprit nous révèle l'Écriture, nous savons que nous sommes passagers ici, que c'est un court moment, et nous savons qu'ici-bas, eh bien, le territoire, c'est le territoire de l'ennemi. Nous savons que c'est chez l'ennemi, ici, sur cette terre. L'ennemi, c'est le roi du monde, c'est Satan. Que les mauvais esprits, nous le savons, n'aiment pas du tout notre présence ici. Vous savez ce qu'on est pour le diable et pour les démons? On est quelque chose qui le gratouille et qui le chatouille sans arrêt. On est une irritation pour lui. C'est pourquoi il nous en veut, c'est pourquoi il ne nous aime pas, c'est pourquoi il nous hypnotise pour nous faire dormir. Alors nous savons que nous devons veiller et prier, nous le savons. Et l'ennemi fait tout pour que nous ne veillions pas et pour que nous ne prions pas. Mais alors tout, il fait tout pour que nous ne veillions pas et que nous ne prions pas. Hier, j'étais quand même frappé, je veux le dire, j'étais frappé. On a commencé cette réunion d'hommes d'affaires chrétiens par manger des gâteaux, pas une prière. Après, on a demandé des témoignages, on n'a pas prié avant. C'est juste à la fin que j'ai prié pour... Voilà, prière. N'oubliez, ils ont oublié. Je ne critique pas, mais c'est l'état général, voyez. Après, on dit, oh, en Afrique, il y a des miracles, c'est extraordinaire. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont simples, c'est parce qu'ils ne connaissent rien, ils croient quand on leur parle fort, ils croient ce qu'on leur dit, ils sont crédules. Non, c'est des gens de prière. Ils sont peut-être tout ce que vous voulez, mais c'est des gens de prière. Alors là, ça prie, ça prie là-bas. Vraiment. Les gens dans ce monde parlent de 2012. D'après eux, en 2012, c'est la fin du monde. Ils ont même fait un film. Il y a des bouquins là-dessus. Vous allez à la FNAC, vous allez voir tous les bouquins qu'il y a sur 2012. C'est effarant. Mais c'est une œuvre du diable, cette chose-là. Le diable a pour but que personne ne nous prenne au sérieux quand on dit la vérité. Alors, il leur raconte des fables, des histoires. Puis, quand on vient avec la vérité, ils nous disent « Ah ouais, c'est comme pour 2012, la fin du monde. » Ben, voilà. Il n'y aura pas de fin du monde en 2012. Et l'esprit de prophétie est bafoué par des esprits de pitons qui mentent aux gens, au peuple de la terre, avec ces histoires-là. Et puis alors là, ça, tout le monde, alors vous allez sur Internet, hein, tout le monde parle de 2000, enfin tout le monde. Mais c'est effarant tout ce qu'il y a sur 2012. Hein? Afin que le peuple de la terre ne croie en plus rien. Afin que le peuple de la terre ridiculise tout, afin que le peuple de la terre se moque de Dieu, afin que le peuple de la terre se moque de l'Apocalypse, des révélations. Mais nous, il nous est dit veiller et prier. Alors qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, ce que vous voyez se passer là en ce moment, c'est le malin qui est en train de s'activer et qui est en train d'activer la venue de l'Antichrist. L'Antichrist, il doit pouvoir séduire Israël. Il faudra qu'il puisse prouver qu'il est de la descendance de David, sinon ils ne le recevront pas. Il doit aussi se convertir à Jésus-Christ pour convaincre les chrétiens dénominationnels qui ne sont pas nés de nouveau et qui marchent n'importe quoi. Il faudra qu'il arrive même à convaincre les musulmans. Il doit finir par renier le Seigneur, comme Judas, cet autre fils de la perdition, mais il devra être à la fois une preuve, il doit donner sa preuve au monde entier, particulièrement aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans, quand il arrivera. Voilà pourquoi vous voyez les musulmans, tout ce qui se passe dans le milieu musulman en ce moment. Le peuple est en train de se trouver dans l'obligation de crier au secours. Et l'Antichrist va arriver, vous allez voir. Il va arranger tout ça, ça va être merveilleux. Il doit sortir de l'Europe, l'Antichrist, de l'ancien Empire romain. Pas de l'Amérique, ceux qui disent que Obama c'est l'Antichrist, c'est faux. C'est pas lui. Il sera très charismatique, il sera charmant, intelligent. Il aura le souci des pauvres et des déshérités. Il aura le souci de promouvoir, n'est-ce pas, les minorités. Et puis, qu'est-ce qui se passe là? Ben, dans l'ombre, des gens qui ne sont pas connus nourrissent la corruption dans tous les pays. Ils sont en train de le faire. Ils le font afin de pouvoir s'emparer des gouvernements partout dans le monde. C'est eux qui ont favorisé la corruption chez tous ces guignols qui ont dirigé pendant des dizaines d'années tous ces pays. Afin que finalement le peuple soit obligé de se révolter, crevant de faim. Le but de ces gens, c'est celui qui est annoncé dans la Bible, d'en arriver à un gouvernement mondial, dirigé par des marionnettes qui choisissent eux-mêmes, des présidents, des rois, des dictateurs, des ministres. Vous croyez que quand vous allez voter, ça compte? Alors ces gens-là qui sont dans l'ombre, on les voit de temps en temps. Ces gens de l'ombre, on les voit de temps en temps, c'est puissant. Mais tout le monde pense que ce sont des gens qui sont altruistes, ils sont très riches. Ils se réunissent chaque année à divers endroits, jamais le même. Leur réunion, ce n'est pas annoncé. Ce qu'ils disent dans leur réunion, ce n'est pas rapporté. Leurs décisions ne sont pas enregistrées. Et pourquoi pensez-vous qu'ils se réunissent? Ils se réunissent, on les voit. Vous les voyez à la télévision. Vous les voyez dans les journaux. Hein? Je n'ai pas besoin de dire le nom. Vous savez tous. Vous savez tous. En ce moment, ils sont en train de parler d'une monnaie mondiale. Alors, ils ont fait un coup d'essai avec l'euro. Et puis, on va passer à une monnaie mondiale. Pour pouvoir contrôler quoi? Contrôler le pouvoir d'achat et de vente de tout être humain. La mise en place de la bête, de son gouvernement mondial, selon Apocalypse 13, 16, c'est cela. C'est d'avoir le pouvoir sur le pouvoir d'achat et de vente de chaque être humain. Et celui qui ne marchera pas correctement selon son idée, il ne pourra ni acheter ni vendre. Donc voilà, pour pouvoir croire ce que je vous dis, ben, il faut de la sagesse. C'est ici qu'intervient la sagesse, nous dit Jésus dans l'Apocalypse. C'est ce que dit le verset 18. Celui qui suit le verset qui annonce la monnaie mondiale. La sagesse, elle ne vient pas reposer sur des vierges folles, c'est impossible. Elles aiment la folie, elles aiment les trucs émotionnels, les machins comme ça. Ça ne vient pas reposer là-dessus. La sagesse repose sur ceux qui veillent et qui prient. Voilà pourquoi on doit veiller et prier. C'est afin d'avoir cette sagesse. Apocalypse 13, 18, il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Alors on a attribué ce 666 à Néron, on l'a attribué à plein de gens. L'apôtre Paul dit, il y a eu déjà des antichrists. Hein, des gens qui ont un pouvoir, etc. Mais c'était les aimables répétitions générales de tout ce qui doit se passer et tout ce qui doit se concrétiser à la fin. Vicarius Filii Dei, hein, c'est le titre du pape, vicaire du Fils de Dieu. Eh bien, si vous prenez la valeur numérique de ce titre, ça donne 666, le pape. Mais quel pape? Celui-là? Le suivant? Lequel? Lequel? Et puis, la Bible nous dit que cette puissance, cette entité va avoir un pouvoir sur le monde. En ce moment, on joue, on s'amuse, on s'instruit aussi. Avec une toile d'araignée qui est tendue sur toute la terre, une grande toile d'araignée. Vous voyez de quoi je veux parler? C'est utilisé partout, même à Ouagadougou. Ils ont maintenant la DSL. Vous rendez compte? À Ouagadougou. Où on crève de faim pourtant, hein, ben ils ont quand même des web cafés, des web bars. L'Internet, vous avez déjà vu www. Puis après vous écrivez votre machin, vous avez vu www. Il faut savoir que la lettre W en hébreu, c'est le Vav. Et le Vav, sa valeur numérique, c'est le 6. 3 fois W égale 666. Ça fait réfléchir. Je ne dis pas que l'Internet... c'est l'antichrist ou c'est la bête. Je vous dis que tout ça, c'est une mise en place de toutes ces choses. Mais qui veut y croire? On va dire, oh Michel, tu fais partie de ceux qui croient qu'il y a un complot mondial. Absolument. Un complot mondial démoniaque. Complètement. Complètement, j'y crois. Oui. Pas le complot que certains croient, des trucs complètement tartes et idiots. Non, non, je crois ce que la Bible nous dit. Il y a un complot pour une mise en place de l'antichrist et de son faux prophète. Vous croyez? Vous ne croyez pas? Moi, ce que je veux, c'est que vous croyez. Parce que seuls ceux qui croient pourront veiller et prier en conséquence pour se préparer pour l'enlèvement. Les autres resteront sur la terre. Voilà pourquoi j'enseigne. J'enseigne, et puis après, je prie pour les malades, pour qu'il y ait confirmation de ce que je dis, pour qu'on sache que ce que je dis est vrai. Parce que Jésus, quand il guérit les malades, c'est pour confirmer que ce qu'il a dit est vrai. Ici, vous savez que ce que je dis est vrai. Au sanctuaire, vous le savez. Mais combien de gens nous écoutent et ne savent pas encore? Pour combien de personnes, ce que je dis là ce matin, c'est un mystère, boule de gomme. On ne comprend pas, on ne sait pas. Oh, mais Michel, il y en a un qui m'a écrit dernièrement. Oui, je ne peux pas adhérer à ses pensées, n'est-ce pas? C'est vraiment, je ne me rappelle plus les termes qu'il emploie, mais enfin, c'est des spéculations.
Voilà. Par contre, ce même homme, il croit que Jésus s'est marié et puis qu'il a eu des gamins. Vous voyez ça, oui. On peut bien croire des choses comme ça. C'est tellement bête. Pourquoi est-ce que Jésus parle de vierge folle? Mon Dieu, aie pitié. Mon Dieu, aie pitié. C'est vraiment, vraiment que Dieu ait pitié de son peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons et nous prions. Seigneur Jésus, je veux te prier de bénir chacun et chacune ici et de permettre que ceux qui écoutent aussi sur le net puissent être bénis de toi. Que ce que je leur ai dit ce matin, ils puissent le réécouter, l'analyser avec leur Bible ouverte, avec un esprit ouvert, et qu'ils se rendent compte dans quel temps nous vivons, que c'est important, qu'il y a urgence, qu'il faut être prêt, que ce n'est plus le moment de s'amuser. Père, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Aide-les à comprendre cela. Aide-les à faire le point sur leur propre vie et à se mettre en ordre avec ta parole. Merci Seigneur Jésus d'aider chacun à veiller, à prier. Merci Seigneur mon Dieu de m'aider moi aussi, parce qu'après avoir bien commencé, je ne voudrais pas mal finir. Aide-moi Seigneur à tenir ferme jusqu'au jour de l'enlèvement. Que ton nom soit glorifié dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de tous ceux qui sont sur internet et qui écoutent cela. Permets mon Dieu qu'aucun de ceux qui écoutent ne reste lorsque tu viendras chercher ton épouse, mais que tous partent dans l'enlèvement. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Je sais Seigneur Jésus qu'il y a des conditions. Je sais que tu es... Quand l'homme a dit que tu es sévère, tu n'as pas démenti, c'est vrai que tu es sévère, mais tu es juste, tu es bon. Et Seigneur notre Dieu, nous remettons notre vie entre tes mains parce que nous voulons pas tomber sous cette sévérité dans un jugement, mais nous voulons marcher d'une façon digne et aller jusqu'à cet enlèvement. Nous voulons te prier, Seigneur Dieu, de nous aider, de nous bénir. Et si quelques personnes qui a de l'autorité dans ce monde écoutent ce que je dis, eh bien, qu'ils soient bénis aussi, qu'ils ne pensent pas que je suis en train de traiter tous les hommes politiques de démoniaques, mais il y a beaucoup de victimes parmi eux, beaucoup de victimes innocentes qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ceux qui ont crucifié Jésus ne se rendaient pas compte. Ne se rendaient pas compte. Jésus dit, d'ailleurs, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne tous ces hommes, ces femmes qui ont un pouvoir politique, financier et qui ne se rendent pas compte. Mon Dieu, viens au secours de ceux qui t'appartiennent et que ceux qui sont destinés à la vie éternelle puissent recevoir cette vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen.